Sébastien Lecornu poursuit ses consultations. Le Premier ministre souhaite rallier les socialistes. Mise en garde de Marine Le Pen, c'est la rupture ou la censure? Les syndicats prennent le relais du mouvement Bloquons tout, lancé par l'ultra-gauche. Ils annoncent une journée de grève et de manifestation le 18 septembre. L'affaire Legrand-Cohen suite, une commission parlementaire va être mise en place et l'ARCOM se saisit du dossier. La fin du sommet du Forum des îles du Pacifique. Les participants ont adopté à Honiara une déclaration commune qui vise à assurer la paix dans la région. En place depuis le 1er août, le général Soubrier était notre invité ce matin. Le commandant supérieur des FANC a évoqué plusieurs dossiers qu'il entend développer dans les semaines qui viennent. Le sport et l'étape du Tour d'Espagne, un contre-la-montre encore perturbé par les militants pro-palestiniens. Ils ont tenté de bloquer le passage d'un coureur de l'équipe Israël Premier Tech. Et puis c'est ce soir que sera donné le coup d'envoi de l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie. 100 km d'efforts attendent les plus endurcis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi comme tous les vendredis par le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et votre invitée sera aujourd'hui Sonia Baquès.
Oui, Sonia Baquès, que nous interrogerons sur les décisions adoptées hier lors de l'Assemblée de la province sud. Mais nous reviendrons bien sûr aussi avec elle sur la situation politique nationale, sur la nomination à Matignon de Sébastien Lecornu et sur les conséquences que cette situation nationale peut avoir sur la Nouvelle-Calédonie et sur la mise en œuvre de Bougival. On se retrouve d'ici une petite demi-heure en compagnie de la présidente de la province sud, juste après votre journal.
Et puis cet après-midi à 16h45, on retrouvera évidemment le club politique Radio Rythme Bleu.
Au sommaire de ce club politique, la publication le week-end dernier, on l'a déjà oublié, de l'accord de Bougival au journal officiel. Mais nous évoquerons aussi naturellement la chute de François Bayrou, la nomination de Sébastien Lecornu et là encore les conséquences éventuelles pour la Nouvelle-Calédonie. Et puis nous ferons également le point sur le sommet du Forum des îles du Pacifique qui se clôture à Honiara aux îles Salomon, un club politique qui débute tous les vendredis après-midi à 16h45.
Hier, la province sud a donc adopté son plan de prévention de la délinquance et l'une de ces mesures fait l'objet de notre question du jour.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La voici cette question. La province sud a-t-elle raison, selon vous, de passer à 21 ans au lieu de 18 ans, l'âge légal pour acheter de l'alcool? Si vous pensez qu'elle a raison, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 92% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que Sébastien Lecornu va réussir à former un gouvernement qui échappera à la censure. Ils sont 8% à penser qu'il n'y arrivera pas. Sébastien Lecornu réussira-t-il donc ou non à former un gouvernement qui échappera à la censure? En tout cas, le nouveau Premier ministre consulte d'abord les partis du socle commun, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il recevra les responsables de l'opposition en début de semaine prochaine, avant des rencontres prévues avec les syndicats. Il continue donc de consulter Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Avec le socle commun, Sébastien Lecornu veut définir un accord de gouvernement. Chacun des partis semble prêt à faire des concessions pour avancer en bloc avant de chercher un compromis avec les oppositions. La tendance, poussée par Emmanuel Macron, serait de se tourner en priorité vers la gauche. Le Premier ministre envisage ainsi toutes les hypothèses, comme la réactivation du conclave sur les retraites ou la possibilité de faire un geste sur la taxation des très hauts revenus, des concessions au PS qui s'abstiendraient en retour de censurer le gouvernement. Mais l'autre menace pour Sébastien Lecornu, c'est Marine Le Pen, avec qui il devra aussi négocier. La patronne des députés RN sera reçue mardi à Matignon, avec sans doute une liste de mesures qui, faute d'être intégrées au prochain budget, justifierait la censure. La voie de passage apparaît donc étroite pour Sébastien Lecornu. Seule certitude à ce stade, la mesure consistant à supprimer les deux jours fériés voulus par François Bayrou devrait être abandonnée.
Des ouvertures vers les socialistes qui ne sont pas du goût du Rassemblement national. Sur le plateau du 20h de TF1, Marine Le Pen a exprimé des réserves. Et elle affirme, c'est la rupture ou la censure.
En réalité, il a été donné comme mission à M. Lecornu de bricoler un gouvernement de non-censure. Le problème, c'est que lorsque vous accrochez plusieurs radeaux ensemble, ça ne fait qu'un gros radeau. Et un gros radeau, ça ne tient pas à la mer quand il y a une tempête. Or, nous sommes en pleine tempête. Nous sommes confrontés à une crise politique, budgétaire, migratoire, sécuritaire, et ils sont dans l'incapacité d'apporter des réponses. Je lui demanderais de rompre avec le macronisme. Oui, ça, c'est la rupture ou la censure.
C'est-à-dire concrètement, rompre avec le macronisme, c'est-à-dire adopter tout partie de votre programme, par exemple.
Mais ouais, pourquoi pas? Non, mais bien entendu, c'est la raison pour laquelle nous avons été élus.
Marine Le Pen, qui sera donc reçue la semaine prochaine par le Premier ministre avec les responsables du Rassemblement national. Pendant ce temps, la contestation sociale ne faiblit pas. Certes, la journée Bloquons tout, lancée hier par l'ultra-gauche, n'a connu qu'un succès très relatif. Des actions parfois émoignées de violence qui ont toutefois conduit à l'interpellation de 675 personnes. Mais les syndicats CGT et CFDT en tête maintiennent la pression et annoncent une journée de manifestation et de grève le 18 septembre dans une semaine. Semaine qui s'annonce donc tendue. Écoutez le préfet de Paris, Laurent Nunez.
Un certain nombre d'assemblées générales se sont tenues dès hier soir, hein, notamment initiées par des mouvances d'ultra-gauche, hein, qui ont appelé à poursuivre les actions. Alors ce sera probablement pas la même intensité que ce qu'on a connu hier, mais il y aura encore des tentatives d'action, de blocage. On l'a vu encore cette nuit et ce matin.
Et rappelons que lors de cette journée Bloquons tout hier, 80 000 policiers et gendarmes avaient été déployés. Le conflit entre Israël et Gaza et ses répercussions idéologiques. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris organise un colloque sur l'histoire du judaïsme en France. Mais 5 chercheurs ont annulé leur participation en raison du conflit à Gaza. Ils estiment que cela reviendrait à soutenir le gouvernement israélien. Décision qui fait vivement réagir le président du CRIF, Jonathan Arfi.
C'est un colloque scientifique, on va parler d'histoire juive de Paris. Tout ça n'a aucun rapport avec la question de Gaza. C'est une discrimination inacceptable qui traduit aussi un mouvement de terreur intellectuelle dans le monde culturel et académique français, où désormais avoir des liens avec Israël deviendrait quelque chose de coupable.
Et la ministre démissionnaire de la Culture, Rachida Dati, a également réagi sur ses réseaux sociaux. « Trop, c'est trop », écrit-elle, en dénonçant un prétexte antisémite caractérisé et assumé. En bref, du nouveau dans l'enquête sur la mort d'Agathe, cette jeune femme disparue en avril dernier dans la Vienne, dont le corps avait été retrouvé 3 semaines plus tard dans un bois. Un suspect a été placé en garde à vue. Et puis l'affaire Le Grand Cohen continue de faire du bruit. Une vidéo montrant les deux journalistes de France Inter en conversation avec des cadres du Parti Socialiste suscite beaucoup de réactions. Dans cette vidéo, on entend notamment Thomas Legrand évoquer l'idée de faire ce qu'il faut pour empêcher Rachida Dati de gagner à Paris. De nombreuses voix ont dénoncé la collusion entre le Parti Socialiste et les deux journalistes. Et l'affaire ne va sans doute pas s'arrêter là. Une commission parlementaire va être mise en place et l'ARCOM se saisit du dossier. Charles Bouchain pour Europe 1.
Objectif, recueillir leurs explications et observations au sujet de la vidéo diffusée par le média L'Incorrect. Dans cette séquence, les deux journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen échangent avec deux cadres du PS. On entend Thomas Legrand dire « on fait ce qu'il faut pour Dati », laissant entendre qu'ils œuvrent contre la candidate à la mairie de Paris. Les auditions de Delphine Ernotte et Sybille Veil se feront à huis clos à une date non déterminée. L'ARCOM précise aussi avoir engagé une réflexion plus large sur l'exigence d'indépendance et d'impartialité du secteur public. Une neutralité qui sera aussi examinée par une commission d'enquête parlementaire initiée par le groupe UDR d'Éric Ciotti. C'est le député Charles Alloncle qui va la diriger. La volonté, explique-t-il, c'est de braquer les projecteurs sur les éventuelles dérives d'un service dont les Français sont les véritables actionnaires. Pour cela, la commission va examiner les budgets, les nominations et les influences avec une méthode qu'il promet rigoureuse, quasi-scientifique et totalement transparente. Des journées des éditorialistes et des dirigeants de France Télévisions et Radio France seront entendus. Il est également question d'auditionner plusieurs journalistes qui ont travaillé dans le service public et qui auraient subi un éventuel parti pris politique.
Et puis un mot sur l'actualité à l'étranger. L'enquête sur l'assassinat de Charlie Kirk avance. Cet influenceur républicain proche de Donald Trump a été tué en public lors d'un meeting dans l'Utah. Visé par un fusil de chasse particulièrement puissant, son meurtrier a été identifié, sa photo largement diffusée. Il aurait visé sa cible à plus de 160 mètres. Une première pause dans ce journal, il est 11h39. Dans un instant, l'actualité dans la région.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Pendant qu'on était fermé, vous avez bricolé n'importe comment. Heureusement, on est de retour à Dimbéa. Maison, jardin, déco, outillage, tous les univers de Monsieur Bricolage dans un nouvel espace de 900 m² au Dimbéa Mall à Green Retail. Optimisé pour aller à l'essentiel. On est si heureux de vous retrouver.
Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité dans la région avec la fin du 54e sommet du Forum des îles du Pacifique, ouvert à Honiara au Salomon en début de semaine. Les participants ont adopté une déclaration commune qui vise à assurer la paix dans la région. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Une page d'histoire s'est écrite hier à Honiara où le sommet du forum a adopté une résolution faisant du Pacifique un océan de paix. Cette déclaration vise à garantir non seulement la paix, mais aussi l'unité et la souveraineté des nations insulaires de la région. Le concept a été élaboré et défendu par le premier ministre fidjien, Sitiveni Rambuka, lequel a estimé dans un vibrant discours que, je le cite, « notre unité fait notre dignité et notre force ». Rien ne doit s'interposer entre nous, a-t-il poursuivi, pas même les intérêts économiques ou la montée du niveau de la mer. La déclaration de l'océan de paix constitue la promesse que le Pacifique sera une région libérée de la coercition, de la militarisation et des interférences extérieures, a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et les dirigeants politiques du Forum ont également ratifié hier un traité qui vise à établir un mécanisme destiné à soutenir les communautés vulnérables de la région confrontées aux impacts du changement climatique et aux risques de catastrophes naturelles. Le mécanisme de résilience du Pacifique, qui devrait devenir opérationnel l'an prochain, est financé par l'Australie à hauteur de 100 millions de dollars, soit environ 6 milliards 750 millions de francs. C'est le général Soubrier, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, qui était notre invité ce matin à 7h30. Une première interview sur les médias calédoniens, Lionel Sabot, depuis sa prise de fonction en tant que COMSUC le 1er août dernier.
Le général Soubrier a fait toute sa carrière dans l'armée de terre au sein des troupes de marine. Et le 1er août dernier, il a en fait retrouvé la Nouvelle-Calédonie. En effet, il avait été en poste au début des années 2000 au sein du REMAP-NC. Depuis sa prise de fonction, il y a maintenant un mois et demi, le COMSUC a multiplié les rencontres sur le territoire. Rencontre notamment, bien évidemment, avec les femmes et les hommes des FANC.
J'ai pratiquement rencontré l'ensemble des unités, armée de l'air, marine, armée de terre, mais aussi l'ensemble des directions et services. Donc j'ai rencontré pratiquement tout le monde. J'ai eu la chance de rencontrer la troupe et les marins et les aviateurs sur site. C'est l'occasion, bien sûr, de me rendre compte des capacités des FANC. C'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui composent les FANC. C'est aussi l'occasion pour moi de donner mes directives, mon attention. C'est essentiel de prendre le pouls au sein des unités. Notamment, j'ai ce souvenir la semaine dernière, je suis allé visiter l'équipage donc du patrouilleur outre-mer Auguste Bénébig, qui était à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai eu l'occasion d'aller là-bas et de visiter le bâtiment et de visiter ses capacités militaires en opération, en mission, apporte toujours un éclairage particulier, de voir l'équipage et l'esprit d'équipage, c'est essentiel pour moi.
Le général Soubrier qui a également rencontré depuis le début de son mandat sur le territoire les représentants des institutions, mais aussi les différents consuls installés en Nouvelle-Calédonie. À 50 ans, le général Soubrier entame une mission de 2 ans en Nouvelle-Calédonie, avec plusieurs axes de travail en Calédonie, mais aussi dans la région Pacifique.
Tout d'abord les opérations, puisque nous intervenons dans la région. Intervention lorsqu'une catastrophe naturelle arrive. Intervention aussi pour détruire des munitions auprès de l'Australie, donc au profit des États insulaires du Pacifique Sud. Des opérations de police des pêches et en mer. Deuxième point, tout ce qui est coopération, partenariat. Le troisième point, ce sont les exercices. Nous avons eu l'exercice Croix du Sud, ici en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna. Mm-hmm. L'exercice Talisman Sabre en Australie. Et donc un vrai effort sur cet aspect exercice collectif avec l'ensemble des forces armées dans la région. Et le quatrième point, c'est la participation au forum de la région, donc au Pacifique Quad. J'y vais très bientôt en Australie. Ce sont vraiment les dossiers à l'international pour lesquels j'ai un effort particulier en ce début de mandat.
Lors de cette interview ce matin sur Radio Rythme Bleu, le général Soubrier a également évoqué ce que l'on appelle le lien armée-nation, auquel il faut ajouter l'aspect jeunesse.
C'est crucial, c'est un vrai point d'effort que je porterai aussi pendant ces années à la tête des FANC. Les armées déjà sont jeunes. Je suis convaincu que nous avons énormément de liens, notamment, donc je l'ai dit, par cette homogénéité de classe d'âge. Nous avons aussi beaucoup de jeunes vétérans qui sont ici sur le territoire calédonien. Mm-hmm. Et j'aimerais retisser ce lien aussi avec ces Calédoniens qui sont passés dans les armées et qui sont revenus sur le caillou et avec qui on peut encore, je pense, forger des liens vis-à-vis de la jeunesse. Je continuerai de fédérer et pourquoi pas autour de sujets mémoriels, puisque l'année prochaine, en 2026, nous allons célébrer les 80 ans du retour du bataillon du Pacifique, qui était un moment de grande cohésion sur le territoire, avec tous ces combattants qui étaient partis se battre notamment en Afrique du Nord et en Europe, et qui sont venus le 21 mai 1946, ici à Nouméa. Je pense qu'il y a une séquence mémorielle qu'il peut être intéressant de monter autour de la jeunesse.
Le général de brigade Gabriel Soubrier, nouveau commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, invité du matin sur Radio Rythme Bleu, interview que vous pouvez retrouver évidemment en réécoute audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc.
Et puis avant de marquer une nouvelle pause dans ce journal, ce fait divers, un homme d'une trentaine d'années est mort ce matin après avoir chuté du pont des Érudits, la piste du suicide est privilégiée. Les pompiers sont intervenus vers 8h et une enquête a été ouverte. En juillet dernier, déjà un homme s'était jeté de ce pont de Dombéamol et avait percuté le pare-brise d'une voiture avant de décéder au Medipol. Il est 11h46, l'actualité en Nouvelle-Calédonie. On y revient après une nouvelle pause dans ce journal.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Attention, bon plan explosif. Profitez de moins 20% de remise sur tous les vêtements Under Armour. Rendez-vous dans votre boutique Project Under Armour Nouméa, en plein centre-ville. Offre valable du 26 août au 27 septembre seulement, alors dépêchez-vous.
Le carnaval de Nouméa fait son grand retour le samedi 13 septembre pour une 36e édition placée sous le signe de la nouveauté.
Rendez-vous cette année à la baie de Sainte-Marie avec un départ du défilé à 18h au niveau du rond-point d'Enguerre. Les chars défileront sous vos yeux jusqu'au parc urbain de Sainte-Marie.
Au programme, des animations gratuites dès 16h tout au long du parcours et au parc urbain. Ambiance musicale, stand de restauration, spectacle de magie, manège.
Le carnaval de Nouméa, c'est ce samedi 13 septembre, baie de Sainte-Marie. Toutes les infos sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Infomag, la suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Jean-François Bodin.
L'État poursuit son engagement financier à la Nouvelle-Calédonie dans un communiqué. Il revient sur le déblocage de la deuxième tranche du prêt garanti par l'État de 28 800 millions de francs, Léana Colombo.
Une seconde tranche qui était conditionnée à un train de réforme. L'objectif fixé est le retour à l'équilibre des comptes sociaux et le redressement des finances publiques d'ici 2027. L'État affirme que le plan de réforme budgétaire, sociale et fiscale adopté par le Congrès le 30 juillet 2020 bien qu'encore insuffisant, est une première contribution au redressement des finances du territoire. Malgré tout, conscient de sa responsabilité vis-à-vis des Calédoniens et de l'urgence à renforcer le financement des dispositifs d'aide aux plus démunis, l'État a décidé de procéder au versement de la seconde tranche du prêt de l'AFD. 2,52 milliards seront spécifiquement fléchés vers les communes pour financer des dispositifs sociaux, notamment au bénéfice des jeunes et de leur insertion dans la société. L'État affirme dans ce communiqué, reconnaître par cette décision les premiers efforts fournis par la Nouvelle-Calédonie et réaffirmer son soutien et sa volonté d'accompagner la Calédonie dans la durée pour refonder son modèle économique et social. La mission interministérielle dirigée par Claire Durieux est notamment chargée d'assurer cet accompagnement construit autour d'engagements réciproques.
Et l'État rappelle qu'en 2024, dans le contexte de crise politique, économique et sociale sans précédent, le soutien de l'État à la Nouvelle-Calédonie s'est élevé à 324 milliards de francs, soit plus de 24% du produit intérieur brut 2023 du territoire. Revenons sur cette allocation exceptionnelle de maintien dans l'emploi. Elle fait partie, vous le savez, d'un accord cadre défini par les partenaires sociaux et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les financements ont été validés avec l'État. L'allocation est donc désormais en place et le dispositif est rétroactif depuis juillet 2025 et il se poursuit jusqu'au 31 décembre 2025. Cette allocation exceptionnelle et temporaire de maintien dans l'emploi s'adresse aux entreprises confrontées à des difficultés persistantes depuis les émeutes. Elles pourront ainsi bénéficier d'un soutien financier temporaire, ce qui permettra de réduire le risque de licenciement massif ou de cessation d'activité. Christopher Gigès est membre du gouvernement en charge du travail et de l'emploi.
C'est la suite du chômage partiel exaction qui avait été mise en place. Donc sur la mise en œuvre et comment on le demande, c'est sur le site de la DTE de la Nouvelle-Calédonie, donc dte.gouv.nc, avec des onglets bien spécifiques sur le maintien dans l'emploi et sur le retour dans l'emploi, avec les différents montants qui sont indiqués pour les dispositifs. Mais on a vraiment voulu avoir un dispositif qui a été construit avec les partenaires sociaux qui permet de favoriser l'emploi. L'État nous demandait au départ d'augmenter simplement le régime chômage. On n'a pas souhaité aller dans cette être logique, avec les partenaires sociaux. Et donc, il y a eu ce dispositif à la fois de maintien dans l'emploi des salariés dans des entreprises qui sont en difficulté et pour les entreprises qui sont en capacité d'embaucher, d'avoir une dégressivité de charges patronales pour favoriser la création d'emplois en Nouvelle-Calédonie.
Je rappelle que toutes les informations sur ce dispositif, mais aussi sur les critères d'éligibilité, sont donc expliquées et détaillées sur le site de la DTE, la Direction du Travail et de l'Emploi. Une nouvelle expérience numérique à bord du Betticho. Le mois dernier, la Sud-Île Betticho a signé un partenariat avec la société Moment qui propose une plateforme de divertissement en service accessible à tous les passagers. Les 355 passagers qui feront la traversée vers les îles Loyauté ou l'île des Pins pourront donc profiter de ces services numériques. Édouard Castin est le directeur général de la Sud-Île Betticho.
On cherchait depuis un certain temps un partenaire pour faire du divertissement à bord, pour permettre à nos passagers, quand les traversées sont assez longues, comme pour les loyautés, de regarder des films ou des séries à bord. Et puis, au cours de nos recherches, on est tombé sur cette société qui est une société française, qui a développé un outil qui nous convenait parfaitement. Donc on s'est approché d'eux et on a mis en place ce partenariat qui a commencé le mois dernier. Alors en fait, comment ça fonctionne? Vous utilisez votre propre appareil, c'est-à-dire smartphone, tablette ou ordinateur. Par contre, vous devez vous munir de vos écouteurs. Et ensuite, vous flashez un QR code à bord qui vous envoie sur une plateforme dans laquelle vous allez trouver des films, des séries, des jeux, un peu comme dans les avions. Et ensuite, vous regardez les films ou les séries qui vous intéressent.
Et toujours à propos des îles Loyauté, notez que l'édition 2025 de la Foire des îles Loyauté est lancée depuis ce matin. Marée, Lifou, Ouvéa, Tiga se retrouvent pour présenter le meilleur de leur production. Cette foire se poursuit jusqu'à dimanche. Une journée de rencontres et d'échanges à la FOL. Les tuteurs de jeunes engagés du service civique passent par la case reformation pour pouvoir accompagner les jeunes intéressés par le dispositif, Léana.
Le service civique a été déployé en 2011 en Nouvelle-Calédonie et son engouement ne diminue pas. En un peu moins de 15 ans, ce sont 4685 jeunes qui ont bénéficié de cette étape de vie à l'éducation citoyenne. Mais pour pouvoir faire un service civique, il faut obligatoirement un tuteur et ce tuteur doit se reformer au moins une fois au cours des 3 ans pour pouvoir conserver son agrément. En Nouvelle-Calédonie, ils sont près de 150 à devoir être reformés. Et pour cela, le Haut Commissariat et la FOL, opérateurs uniques de formation sur le territoire, ont organisé une journée construite autour d'échanges et de bonnes pratiques grâce à des ateliers. Stéphanie Brancadi est référente du service civique au Haut Commissariat.
Les tuteurs, c'est vraiment la pierre angulaire du dispositif. Ils accompagnent les jeunes et ils ont une formation qui est obligatoire. Donc là, au lieu de refaire la formation telle qu'on l'avait dispensée il y a 3 ans, on a décidé de faire une expérimentation. Et cette journée, on a choisi d'apporter de la convivialité, d'être beaucoup sur les échanges de pratiques entre tuteurs, parce que c'est ça qui fait vivre le dispositif. Donc il y a des ateliers différents, du théâtre forum sur la posture du tuteur, un atelier sur tout ce qui est code culturel et l'intergénérationnel. J'avais envie d'insister là-dessus parce que c'est vrai que souvent, les tuteurs ils ne parlent pas le langage des jeunes, ils ne se comprennent pas, ils disent de mon temps, nous on faisait ça quand on était jeunes, donc c'est important d'apporter, de faire un petit pas de côté en fait sur ces pratiques. Et puis on a l'atelier réglementation plus vraiment sur les droits et les devoirs des jeunes et les rôles des tuteurs.
Aujourd'hui, une quarantaine de tuteurs est réunie pour cette reformation, un moment important pour eux afin d'accueillir les jeunes dans les meilleures conditions possibles.
Je suis médiateur social de la Croix-Rouge, tuteur secondaire. Au début, j'avais fait une formation de tutorat service civique. Et là, ça fait tous les 2 ans, moi j'ai fait en 2022. C'est pour me remettre à niveau parce que comme je reçois toujours des services civiques chaque année, il y a beaucoup de formalités qui changent, on est obligé de suivre aussi les formations. Aussi.
Je suis agent d'entretien à Fort-Terrain-Bas. On a des questions qu'on se pose en suspens et puis on vient pour éclaircir les choses. Quoi.
Je suis surveillant d'éducation à l'internat du Coney. Ça m'a encouragé parce que la jeune que j'ai suivie, maintenant, elle a réussi son concours d'agent d'éducation. Et avant qu'elle passe ces concours-là, on a fait les démarches ensemble pour pouvoir arriver là. Et je suis fier de faire cela avec elle parce que ça encourage à continuer à m'occuper des services civiques.
Au niveau national, plus de 850 000 jeunes se sont engagés dans un service civique depuis 2010.
Actualité religieuse. En bref, avec cet anniversaire, la congrégation des Petites Filles de Marie fête depuis ce matin et jusqu'à dimanche son jubilé. l'église de la Conception va vivre au rythme des 150 ans de la congrégation fondée le 12 septembre 1875 par sœur Marie de la Croix. Au programme de cet anniversaire, une exposition sur la congrégation, des échanges, des partages. Une messe sera célébrée ce soir à 18h par Mgr Sioné Poé. Demain, des jeux scéniques sont prévus sur l'itinéraire de sœur Marie de la Croix. Il est 11h55. Dans quelques secondes, on se retrouve après la dernière pause de ce journal pour parler sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Il attire tous les regards et change les règles du jeu. Le nouveau Kia Sportage arrive en Nouvelle-Calédonie avec, pour la première fois, une motorisation hybride. Plus grand, plus confortable, plus économe en carburant. Osez un SUV qui ne fait aucun compromis. Kia Sportage, élégance et performance réunies.
Autocal 198 rue Jacques Ekaoué. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Fais appel à tes collègues préférés et participe au CIPAC Challenge. Du 6 au 20 octobre, participez au plus grand challenge sportif interentreprise de Calédonie. Vous avez 15 jours pour bouger et faire un maximum de pas. Chaque jour, un défi sera relevé sur l'application pour gagner encore plus de points. Fais gagner ton équipe, ton entreprise ou même ton association pour remporter un des nombreux lots. Inscrivez-vous dès maintenant sur la page Facebook CIPAC Challenge. Le CIPAC Challenge, ensemble, on va plus loin.
Vous souhaitez devenir propriétaire d'un terrain à Païta pour construire votre résidence principale? Les équipes du FSH vous attendent le samedi 13 septembre de 8h à midi sur le lotissement Durango pour visiter nos terrains d'une surface minimum de 10 arts à partir de 3 900 000 francs. Retrouvez l'itinéraire pour rencontrer nos équipes sur notre page Facebook et si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez le service Accession au 05 10 15 ou au 26 60 00. Le FSH, c'est bien plus qu'un toit.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et le sport, c'est d'abord du cyclisme aujourd'hui. L'Italien Filippo Ganna a remporté la 18e étape du Tour d'Espagne à Valladolid, un contre-la-montre écourté par les organisateurs et marqué par l'arrestation de deux personnes qui tentaient de bloquer le passage d'un coureur de l'équipe Israël Premier Tech, Lionel.
Deux manifestants qui ont été interpellés après avoir carrément enjambé les barrières de sécurité qui encadraient le parcours où des dizaines de militants pro-palestiniens s'étaient massés pour protester contre la participation, vous le disiez, de la formation Israël Premier Tech. Côté sport, Filippo Ganna de la formation Ineos, spécialiste du chrono, a réalisé le meilleur temps sur un parcours qui avait été réduit de 27 km 200 à 12 km 200. Pour raison de sécurité, évidemment. Ganna a devancé l'Australien Jevine et le Portugais João Almeida qui a repris 10 secondes sur le Danois Jonas Vingegaard qui reste en tête du classement général avec désormais donc 40 secondes d'avance sur Almeida, le coureur portugais qui aura une ultime occasion de revenir sur le double vainqueur du Tour de France. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche pour nous lors de l'avant-dernière étape, dont l'arrivée sera jugée au sommet du Bola del Mundo. C'est un col qui est hors catégorie. Cette avant-dernière étape, comme celle de la nuit de dimanche à lundi pour nous, à Madrid, sera encadrée par un dispositif de sécurité exceptionnel avec le renfort de près de 1500 membres des forces de l'ordre. 400 agents de la garde civile seront déployés en renfort pour l'épreuve de la nuit de samedi à dimanche et 1100 policiers pour l'ultime étape et l'arrivée à Madrid. Soit le plus important déploiement de ce type depuis le sommet de l'OTAN à Madrid, c'était en 2022. On ne parle que de cyclisme.
Oui, voilà, la suite de ce journal avec le sport en Calédonie. Et c'est le jour J pour l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie, dont le départ sera donné ce soir à 20h au Yala Ranch. Rendez-vous phare pour les amateurs de course en pleine nature.
Et pour sa 8e édition, l'UTNC se décline sur plusieurs distances. La distance reine d'abord, hein, 100 km, mais aussi les 50, 20 et enfin 10 km en chrono ou en rando. Après l'avoir remporté à 3 reprises, cette année, Angélique Plaire est directrice de course. Elle nous a livré quelques secrets sur le parcours que vont emprunter les 62 trailers au départ du 100 km.
Ils vont partir directement vers le GR, donc ça, on le connaît. Il y a des petites parties surprises comme la remontée du camp bloc que certains ne connaissent pas. Ils se sont laissés un petit peu la surprise le jour J. Et après, voilà, le site du Yala Ranch qui nous accueille, et je les en remercie, qui fera office de gros PC et de gros village, autant pour les arrivées que pour les milieux de parcours sur le 100 et le 50 km. Ils vont avoir quelques passages de rivière. Je pense qu'il va faire froid aussi. Donc voilà, si j'ai un conseil encore à donner, c'est vraiment d'anticiper autre que le matériel obligatoire des vêtements chauds, parce qu'il faisait quand même très froid, j'y suis allée ce week-end. Et évidemment, tout le Zuma que beaucoup n'explorent pas, mais qui révèle pas mal de difficultés, mais de beaux paysages.
62 trailers seront donc au départ de l'UTN, ce 100 km. Ce soir à 20h, 89 participeront aux 50 km, dont le départ sera donné à 4h demain matin. 198 coureurs s'élanceront sur le 20 km et près de 300 sur le 10 km. La remise des prix, ce sera dimanche à 10h30 d'Abbé Amaulne.
Merci Lionel, il sera midi dans quelques secondes.